Laudetur Jesus Christus.
Une trêve au Liban entre le Hezbollah et Israël semble n'être qu'une question d'heure. Le cabinet de sécurité israélien doit se réunir cet après-midi. Nous reviendrons sur les détails de ce que prévoit cet accord de cessez-le-feu au début de ce journal. Un nouveau train de sanctions britanniques contre la Russie qui a mis en place une flotte de plusieurs centaines de navires pour détourner l'embargo sur les ventes de pétrole imposées par les Occidentaux. Nous entendrons notre correspondant à Londres. Dans ce journal également, le drame des mines antipersonnelles en Ukraine qui s'est invité, on le verra, au Cambodge lors d'une conférence internationale sur la convention d'Ottawa qui interdit ces armes. Et puis direction aussi le Pakistan où les partisans de l'opposition de l'ancien Premier ministre Imran Khan exigent sa libération mais également la démission du gouvernement.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnet.
Bonjour. Après deux mois de guerre ouverte au Liban, un cessez-le-feu semble donc enfin se dessiner entre le Hezbollah et Israël. Un accord serait proche, selon les États-Unis qui supervisent les négociations pour arracher une trêve aux côtés de l'Union européenne et des Nations unies. C'est désormais au cabinet de sécurité israélien de se prononcer ce mardi après-midi. Bonjour Alexandra Siergan.
Bonjour Olivier.
Alors que sait-on de cet accord, Alexandra ?
Il prend pour base la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU, celle qui a mis fin à la précédente guerre entre Israël et le Hezbollah en 2006. Selon le site d'information américain Axios, l'accord serait basé sur un projet américain prévoyant une trêve de 60 jours durant laquelle le Hezbollah et l'armée israélienne doivent se retirer du sud du Liban pour laisser l'armée libanaise s'y déployer. Un comité international sera mis en place pour en surveiller l'application et les États-Unis auraient donné des assurances sur leur soutien à une action militaire israélienne en cas d'acte hostile du mouvement islamiste, car le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a d'ores et déjà affirmé à quelques heures de la réunion du cabinet de sécurité que son pays agirait avec force en cas de violation de l'accord. La perspective d'un cessez-le-feu fait grincer les dents au sein d'une large partie de la classe politique israélienne. Le ministre de la Sécurité nationale d'extrême droite, Itamar Ben-Gvir, l'a qualifié d'erreur historique. Le chef de l'opposition et ancien ministre Benny Gantz s'est également prononcé contre l'accord, Olivier. Il estime sur son compte X que le retrait permettrait au Hezbollah de se réorganiser.
Alexandra Siergan, merci beaucoup. Et si le front libanais semble aller vers une accalmie, celui de la bande de Gaza est lui toujours en revanche sans solution. À Gaza, où plus de 44 000 personnes ont été tuées depuis le début de la guerre il y a plus d'un an, selon un dernier bilan officiel du ministère palestinien de la Santé ce matin. Les ministres des Affaires étrangères des pays membres du G7 sont eux réunis depuis hier à Fruji en Italie. Le Proche-Orient était à l'agenda de leur première journée de discussion, mais également l'Ukraine et la guerre au Soudan. En marge de cette réunion, le chef de la diplomatie britannique, David Lammy, a annoncé un nouveau train de sanctions contre la Russie qui a mis en place une flotte fantôme de plusieurs centaines de navires pour détourner l'embargo sur ses ventes de pétrole et de brut, un embargo imposé par les États-Unis, l'Union européenne et le Royaume-Uni après l'invasion russe de 2022. À Londres, la correspondance de Jean Jaffré.
David Lammy, le ministre des Affaires étrangères britannique, dans le nouveau gouvernement travailliste, s'est déclaré certain que l'Ukraine recevrait l'aide financière et les livraisons d'armes dont elle aura besoin en 2025. Lors d'une conférence de presse, il a annoncé de nouvelles sanctions contre 30 navires de transport de pétrole et de brut sous pavillon de complaisance, portant leur nombre à 73. Les nouveaux pétroliers visés par les sanctions ne pourront plus entrer ni dans les ports britanniques, ni bénéficier des services maritimes fournis par des compagnies de fret et d'assurance. En effet, Moscou s'est adapté pour contourner les sanctions imposées par les États-Unis ainsi que l'Union européenne et le Royaume-Uni. La Russie a pu constituer une flotte fantôme et trouver des débouchés en Chine et en Inde. Elle aura investi plus de 10 milliards de dollars pour mettre en place une flotte fantôme d'environ 600 navires qui transporterait 70% des exportations de pétrole russe par voie maritime. Les volumes transportés ont été multipliés par 4. Selon une enquête du journal Le Monde, les revenus tirés des hydrocarbures représentent entre 30 et 50% des recettes de l'État russe. Long Jean Jaffré, Radio Vatican.
La guerre en Ukraine qui s'est invitée au Cambodge où se tient depuis hier une conférence internationale sur les mines antipersonnelles, des engins de mort qui peuvent exploser 10 ans après avoir été posés. Cette cinquième convention d'Ottawa a pour objectif de faire le point sur ce texte signé en 1997 qui interdit l'acquisition et prévoit la destruction des mines antipersonnelles. L'Ukraine est signataire de la convention mais vient d'annoncer, Marine Henriot, qu'elle ne détruirait pas son stock de mines.
Oui, Olivier, l'Ukraine renonce finalement à son engagement pris en 2005 de détruire le stock de près de 6 millions de mines antipersonnelles héritées de l'époque soviétique. Selon la diplomatie ukrainienne, l'agression russe entraîne des ajustements. La Russie qui n'a pas signé la convention d'Ottawa interdisant les mines, tout comme les États-Unis qui la semaine dernière annonçaient livrer ce type d'armes à l'Ukraine. L'Ukraine, depuis l'invasion russe de 2022, utilise des mines antipersonnelles, notamment dans la région de Kharkiv. Mais il faut dire que la Russie utilise aussi ces mines. Selon le ministre des Affaires étrangères ukrainiennes, elles sont disséminées dans les villes, dans les exploitations agricoles, dans les stations de bus, dans l'est de l'Ukraine. En tout cas, ce retour en arrière concernant l'utilisation des mines antipersonnelles ne passe pas inaperçu en marge de la conférence au Cambodge. Plus d'une centaine de victimes se sont rassemblées aujourd'hui avec des panneaux fustigeant la décision américaine de fournir de nouvelles mines. Des victimes estropiées, équipées de prothèses. Vous l'avez dit, Olivier, les mines peuvent exploser 10 ans après avoir été posées et leur but n'est pas de tuer, mais de blesser ou de mutiler.
Merci beaucoup, Marine Henriot. Au moins 4 paramilitaires tués ce mardi dans des heurts à Islamabad, la capitale pakistanaise. Depuis plusieurs semaines, le pays est traversé par des tensions entre les partisans de l'ancien Premier ministre Imran Khan, emprisonné, et les forces gouvernementales. Des milliers de pro-Khan progressent vers le centre de la capitale pour demander la chute du gouvernement. On fait le point avec notre correspondant régional Emmanuel Derville.
Renversé par une motion de censure en 2022, Imran Khan est en prison depuis l'an dernier. L'armée, très puissante au Pakistan, refuse de le faire libérer et elle tente, avec le parti du Premier ministre Shehbaz Sharif, d'écarter son mouvement du pouvoir. En février, le parti d'Imran Khan, le PTI, était arrivé en tête aux législatives malgré la répression, mais il n'avait pas pu former une majorité au Parlement. Pour Imran Khan et ses soutiens, l'élection leur a été volée et ils sont déterminés à renverser le gouvernement. Depuis quelques jours, ils sont des milliers à affluer depuis le nord et l'est du pays vers la capitale. Ils entendent camper devant le Parlement jusqu'à ce que leurs revendications soient satisfaites. Leur demande a peu de chances d'aboutir tant que le gouvernement Sharif aura le soutien des généraux et de la police. Mais l'intransigeance dans les deux camps risque de plonger le pays dans un bain de sang. New Delhi, Emmanuel Derville, Radio Vatican.
Donald Trump annonce que l'un de ses premiers décrets, signé une fois installé à la Maison-Blanche, concernera l'imposition de droits de douane de 25% sur tous les produits provenant du Canada, du Mexique ou encore de la Chine. Une taxe qui restera en vigueur jusqu'à ce que les drogues, en particulier le fentanyl et tous les immigrés illégaux, arrêtent cette invasion de notre pays, a précisé le milliardaire. Personne ne gagnera une guerre commerciale, a réagi Pékin ce matin. Berlin appelle ce mardi l'Europe à se préparer. Le Rwanda et la République démocratique du Congo font un pas l'un vers l'autre. Les deux pays en conflit ouvert depuis des années ont approuvé hier un document qui est le prélude à un désengagement des troupes rwandaises en territoire congolais. Kinshasa accuse le Rwanda d'armer notamment la milice du M23. L'annonce a été faite par l'Angola, pays médiateur dans la crise entre les deux pays. Nous y reviendrons en détail avec notre correspondant à Kinshasa dans notre édition de 18h. Les condoléances du grand imam d'Al-Azhar Ahmed Al-Tayeb au pape François ce matin après la disparition hier du cardinal Miguel Ángel Ayuso, le préfet du Dicaster pour le dialogue interreligieux. Dans un communiqué, l'imam égyptien qui a signé avec le pape en 2019 la déclaration sur la fraternité humaine d'Abu Dhabi loue dans le cardinal espagnol un modèle, je cite, distingué de service dévoué à l'humanité et des efforts importants du cardinal pour promouvoir les relations avec les musulmans en général. Et puis, une dernière information concernant la Géorgie, le petit pays d'Europe centrale, élira son prochain président. Ce sera le 14 décembre prochain. L'annonce a été faite ce matin par le président du Parlement géorgien. Le pays du Caucase est particulièrement polarisé. Le parti du rêve géorgien, qui est aux affaires depuis 2012, est accusé par ses détracteurs de dérive autoritaire pro-russe. Ce parti rêve géorgien qui a remporté les élections législatives le mois d'octobre dernier, mais le résultat a été rejeté par l'opposition. Un Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes nos informations sur notre site internet vaticannews.va. L'information, elle, reviendra en direct de Rome. Ce sera ce soir à 18h. Vous serez accompagné par Marine Henriot. Excellent après-midi à tous.